Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. C'est maintenant le moment de parler sport business avec Ray Lalonde. Salut, Ray!
Salut, Jérémy!
Ray, on va commencer avec le match des étoiles de la NBA parce que il y en a plusieurs qui ont peut-être pas réalisé que la NBA a décidé de garder son match des étoiles parce que la majorité des grandes ligues, en tout cas depuis un an ou à peu près, ont décidé d'annuler ces activités-là qui sont un petit peu à l'extérieur du cadre de la saison régulière. Pourquoi la NBA a décidé d'y aller tout de même avec un match des étoiles en déplacement? Bien des gens à l'extérieur de leur bulle et tout ça. Et je sais que ça ne faisait pas l'affaire non plus de tout le monde, cette décision-là.
Bon, alors c'est une question avec quelques réponses. La première, c'est pourquoi ils vont jouer ce match-là? C'est parce que ça fait plus de 70 ans que le match d'étoiles est en place. Puis c'est une tradition importante pour la Ligue. J'ai assisté à 8 matchs d'étoiles dans ma vie. Et puis, je peux te dire que c'est vraiment important, cette plateforme-là. Jérémy, la NBA, comme la Ligue nationale de hockey, ils n'ont pas de Super Bowl où tout se déroule sur un plateau d'argent pour une journée, tu sais, le championnat. Ce sont des meilleurs de 7 matchs, des séries finales. Tu peux pas choisir la ville. Ce sont les équipes participantes qui, généralement, accueillent, à part dans une bulle. Mais la NBA, leur événement, leur week-end, qui est comme un Super Bowl, c'est le match étoile. Alors, ce qu'ils ont fait, simplement...
Le concours des slam dunk, on sait à quel point c'est populaire.
Oui, absolument. Alors, ils ont tout compressé, cependant, dans une journée. C'est demain. Et c'est littéralement demain, dans la soirée, à partir de 18h30. Alors, il n'y aura pas de match des jeunes espoirs. Il va y avoir un concours de dunk, un concours de tir. Et puis, le match va quand même faire plaisir aux gens, parce que les meilleurs joueurs, tous, sans exception, à part de Kevin Durant... Bon, est au rendez-vous. Ils ont eu leur mini-repêchage pour le match étoile jeudi soir, qui était à l'antenne de TNT. L'équipe de LeBron James d'un côté, l'équipe de Kevin Durant de l'autre. Puis il y a des joueurs de la conférence Est-Ouest qui sont littéralement permutés, là, qui jouent de l'autre côté, parce qu'ils auront été repêchés, si on veut. Alors, le côté star, le côté vedettariat, le côté qui attire les gens, c'est au rendez-vous à Atlanta demain, il n'y a aucun doute. Et là-dessus... Malgré la résistance, Jérémy, de quelques joueurs.
Ben oui, c'est ça.
C'est normal, on est dans une pandémie. Puis je pense que la résistance des joueurs venait surtout du fait qu'il y avait eu une saison longue qui s'est terminée à la fin octobre et on a repris, littéralement, 2 mois plus tard, dans la semaine de Noël. Et les joueurs n'ont pas eu beaucoup de repos. Surtout des joueurs comme LeBron James qui a joué jusqu'en finale, qui a gagné le titre. Mais honnêtement, je pense que les joueurs, comme je te l'explique à maintes reprises, l'harmonie qui existe entre Adam Silver et les joueurs de la NBA, c'est vraiment quelque chose qui est très... qui est la définition même d'un partenariat d'affaires. Mm-hmm. Les joueurs savent que la Ligue travaille pour eux et les joueurs contribuent au succès collectif de la Ligue.
Mais c'est quand même un risque, je vais te le dire, parce que si jamais, tu sais, au niveau de la logistique, ça va être compliqué, mais si jamais, tu sais, on sortait de là avec plusieurs cas de COVID parce que je sais pas trop quoi, tu sais, c'était pas parfaitement ficelé. La NBA, qui depuis le début de cette pandémie-là, a été vue comme avant-gardiste, vraiment, tu sais, qui planifiait bien les choses. C'est un risque. C'est un risque qu'ils prennent.
Mais je suis pas inquiet pour ça, Jérémy. Je vais te dire pourquoi. D'abord, les joueurs voyagent en avion privé aujourd'hui. Ils vont arriver à Atlanta ce soir. Il n'y a pas de vols commerciaux. Deuxièmement, il n'y a aucun partisan dans les gradins, sauf 1500 personnes invitées qui proviennent de la cause du match, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Historically Black Colleges and Universities. On appelle ça des HBCU aux États-Unis. Et généralement, dans la région d'Atlanta, il y en a 3 ou 4, puis il va en avoir 25 qui vont avoir sur invitation seulement pour un total de 1500 personnes. Bon. Les joueurs vont être en quarantaine, isolés dans une bulle, aréna, hôtel, rien d'autre. Pas de restaurant, pas de sortie, aucune activité communautaire, aucun partisan n'est invité, aucune activité dans la ville pour en faire profiter. On veut uniquement ce qu'on appelle en anglais, Jérémy, « made for TV ». Okay. C'est fait pour la télé, rien d'autre.
Bon,
alors,
parfait.
Je suis pas vraiment inquiet des conséquences et j'applaudis l'effort, encore une fois, de la NBA d'aller de l'avant malgré les nombreux défis qu'ils font face.
Bon, parle-moi de NBA Top Shot. C'est quoi ça exactement?
Bon, NBA Top Shot, c'est un phénomène, puis c'est un phénomène, mais il faut regarder ça avec prudence, mais c'est quand même éblouissant, là. C'est ce qu'on appelle une collection de faits saillants numérisés. Au lieu de collectionner des cartes de basketball ou de hockey ou de baseball, ben là, ce sont des faits saillants que tu achètes dans une forme de crypto-monnaie. Alors déjà, ça devient complexe. Et c'est protégé de façon total via ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle blockchain, où il n'y a pas de gestionnaire de ça, ce sont les individus qui participent, qui continuent de créer une chaîne qui est absolument impénétrable pour la fraude ou pour les hackers, si on veut. Alors là-dessus, les gens peuvent acheter des collections de cartes, qui sont des faits saillants, bien sûr, aussi peu que 9 $, 15 $, 20 $, mais le principe, c'est qu'il y a une collection, il y a une certaine rareté, la NBA va laisser aller des faits saillants de l'histoire graduellement disponibles pour les consommateurs. Puis la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a payé jusqu'à 208 000 $ pour un fait saillant d'un dunk de LeBron James qui a eu lieu cette saison. Alors, là-dessus, il y a un peu de frénésie, il y a un peu de spéculation, il y a beaucoup de volatilité, mais ça reste un investissement. Comme on investit dans des diamants, comme on investit sur le marché boursier, alors, il faut y aller avec prudence, mais on peut jouer, participer sans nécessairement...
Le fait saillant t'appartient.
Il t'appartient, mais la propriété intellectuelle du fait saillant demeure dans les mains de la NBA. C'est juste que toi, tu l'as, il y a un numéro de série, il y a une authentification, ton nom est collé dessus, ça t'appartient, tu peux l'échanger, le transiger, tu peux le laisser prospérer, Jérémy, parce que c'est comme beaucoup de ce qui se passe dans le monde entier avec la crypto-monnaie. Si tu es patient longtemps, puis le marché se stabilise, ça peut être un investissement important. D'un autre côté, on a déjà eu des exemples dans d'autres cas à part le sport où le principe de crypto-monnaie a pas explosé, mais mettons que la tendance puis la mode a diminué, puis là, les choses ont baissé. Alors, faut être prudent comme consommateur, mais allez le voir sur nbatopshot.com pour explorer ça un peu. C'est pour les collectionneurs, c'est pour les gens qui ont du temps puis de l'argent puis qui aiment le risque, mais c'est encore une fois innovateur, Jérémy, parce que je te garantis que d'ici la prochaine saison de la NFL, du baseball, la NHL, ces trois ligues-là en Amérique, comme c'est le cas pour la Ligue 1 en France au foot, avec une compagnie qui s'appelle Sorar, ben ils vont avoir leur fait saillant numérique aussi.
Je suis sur NBA topshotpresentement.com, puis ça donne que la vidéo marche pas. Mais d'après moi, ça doit être mon Internet à moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Ray, je vais te parler un petit peu de ce qui se passe du côté de la MLS, parce que le Toronto FC a annoncé hier qu'eux aussi vont s'installer en Floride pour cette saison. Là, ils ont dit qu'ils vont jouer certains matchs à Tampa, certains matchs à Orlando. Je trouve ça vraiment bizarre. Il y a quand même presque entre 1h30 et 2 heures de distance entre les deux villes. Je vois pas pourquoi on voudrait partager les matchs d'une ville à l'autre, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe en Floride, parce que les Blue Jays sont installés là-bas, vont s'installer là-bas pour cette année. Les Raptors sont déjà là, vont passer toute l'année au complet à Tampa. Les Blue Jays sont à Dunedin, en banlieue de Tampa. D'après moi, le CF Montréal va annoncer sous peu qu'ils s'en vont eux autres aussi dans cette région-là. Pourquoi spécifiquement la Floride?
Bon, alors il y a plusieurs facteurs qui attirent les équipes là-bas. D'abord, l'infrastructure. Tout ce que tu as besoin existe en Floride en termes de compétition sportive. On a vu d'ailleurs, la MLS a eu sa bulle à Orlando.
Oui.
Et la NBA s'est installée sur le site du Walt Disney World, Wide World of Sports Complex.
Ben, la MLS aussi était là. Ça s'est très bien passé pour les deux ligues.
Absolument. Alors, il manque pas de terrain. Il manque pas d'infrastructures sportives. Il manque pas de stade non plus, Jérémy, pour jouer des matchs. L'autre chose, la météo. Tu vas me dire, il y a de la belle météo au Texas. Ben, moins ces temps-ci, mais en Californie, en Arizona.
Oui.
Mais Toronto FC joue dans l'Est.
Oui.
Alors, il faut rester proche des adversaires de l'Est. Mm-hmm. Alors, ça, c'est un facteur, ça aussi. La météo t'assure que tu peux commencer ta saison très prochainement avec d'excellentes conditions. Il y a aussi des joueurs, beaucoup des joueurs qui sont originaires de cette région-là, du sud des États-Unis, qui vivent là-bas parce que c'est la météo puis c'est les conditions clémentes. Alors, ces choses-là font en sorte que quand tu regardes tout ça, les stades, l'infrastructure, la météo, les terrains, le test qui a déjà été mis en place par les bulles dans deux des sports, qui fait en sorte que il y a de la place, on peut jouer là, puis on va s'adapter facilement. Nos voyages vont quand même être raisonnables quand on va jouer contre DC United ou quand on va jouer contre, je sais pas, moi, New York CFC.
Ouais, Atlanta ou quoi que ce soit.
Ben oui, alors c'est facile.
Mais puis surtout si le gouvernement est permissif là, fait que tu sais ils vont avoir un semblant de vie
tout à fait
normal.
Ils veulent les accueillir depuis le début. La Floride est toujours un peu trop agressive, même trop libérale. Mais on sait une chose, c'est que on s'en va dans la bonne direction vis-à-vis la vaccination pour la COVID. Mais ultimement, s'il y a un endroit qui est un peu une destination sportive aux États-Unis, c'est la Floride.
Écoute, je voulais absolument te parler d'un dernier dossier avant de te laisser partir, parce que la semaine dernière, on a eu une surprise assez massive. Dans la MLS, il y a une franchise qui devait rentrer l'année prochaine, c'est Sacramento. Et là, à un an de leur entrée dans la Ligue, ils se retirent. Moi, là, Ray, j'ai jamais vu ça. Ça fait 22 ans que je couvre le sport. Ça fait 40 ans que je suis le sport de proche. J'ai jamais vu une franchise qui doit rentrer. J'ai vu des franchises retarder leur entrée, une année ou deux ou quoi que ce soit. Mais totalement se sortir d'un processus d'expansion alors que la franchise avait déjà été octroyée. Et là, on dit que Sacramento n'avait pas encore payé le frais d'expansion. Puis cette ligue-là, on va se le dire, là, Ray, là, il compte beaucoup sur cet argent-là parce que présentement, il n'y a pas d'argent qui rentre au guichet. Ces sous-là sont très, très, très importants pour eux. Comment ça te fait réagir?
Ben, c'est une grosse interrogation pour la MLS. Mais d'un autre côté, je vais te donner un peu de contexte, Jérémy. Tu le sais mieux que moi là, que depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée de Miami, Nashville, puis là, Austin, Charlotte, Saint-Louis et Sacramento qui étaient en suspens. OK, alors, beaucoup, beaucoup d'expansion, beaucoup de succès au niveau de la valeur perçue de ces équipes-là. Parce que le prix a monté jusqu'à 325 millions pour la franchise de Charlotte.
Exact.
Celle-là à Sacramento avait été vendue, ou accordée plutôt, là, le 21 octobre 2019 comme 29e club à peu près 200 millions. Puis le propriétaire principal majoritaire devait être Ron Burkle, qui est aussi un propriétaire avec Mario Lemieux des Penguins de Pittsburgh.
Mm-hmm.
Bon, alors, tout ça, ça avait l'air très bien. Sacramento avait le soutien. Il y avait des gens de Hollywood qui étaient impliqués avec lui. Et puis, ça semblait sur la bonne voie. Sacramento, c'est une petite ville qui est en, bon, pas banlieue, là, mais relativement proche de San Francisco, San Jose. Mais c'est pas San Francisco. C'est pas une ville majeure. Mais c'est une ville parfaite pour la MLS parce qu'ils ont une infrastructure puis ils ont un gros projet de stade de 300 millions. Donc, d'abord, le stade, le prix a tout de suite grimpé récemment à 400 millions. L'infrastructure a doublé de 27 millions à 50 millions. Ensuite de ça, il y a eu 60 millions de moins de son côté, lui, qui était plus disponible provenant de partenaires qui devaient s'engager avec lui. Et l'autre point final, c'est qu'il en a perdu de l'argent avec les Pingouins cette année. Alors, si on peut l'appeler comme ça, perdre de l'argent, un manque à gagner.
Ouais.
Alors, Ron Burkle a pris une décision qui est très rare, c'est-à-dire de se retirer complètement du projet. Ils ont raté la date de paiement de décembre du 200 millions. Tu as raison de dire que tout le monde voulait le 200 millions. Ils ont manqué la date butoir. Ils se retrouvent aujourd'hui, Don Garber comme commissaire, à chercher un autre propriétaire qui devrait trouver. Parce que la ville est engagée, la communauté est prête, ils veulent un club. Ils ont un club dans la... Je pense que c'est la United States Soccer League.
Mm-hmm.
Alors, tu sais, c'est un marché parfait pour le soccer. C'est juste que là, il va devoir un peu retarder leur entrée. Il va devoir trouver un propriétaire majoritaire. Mais ça ne se fera pas pendant la pandémie. Ça va devoir attendre, dans le sens que c'est là qu'on va revoir un regain de vie au niveau de l'enthousiasme financier auprès de franchises du sport.
En tout cas,
parce qu'actuellement, là, ils ne trouveront pas personne, étant donné les chiffres qui ont changé beaucoup depuis le mois d'octobre 2019.
Parce que moi, ce qui me surprend, c'est quand tu regardes les équipes d'expansion, comme tu viens de le mentionner, là, je veux dire, LAFC est rentré, ça fait quoi, 3 ans maintenant? Ils ont payé quoi 75 millions pour rentrer. Là, ça vaut 475. NYCFC, ça fait quoi 5 ans qu'ils sont là, ils ont payé 50 millions. Peut-être, là, ça vaut 385. Ça me surprend de voir un homme d'affaires débarquer de cette façon-là.
Oui, mais Jérémy, rappelle-toi d'une chose, c'est toujours aussi de la spéculation. Ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer.
Oui.
Tu sais, c'est comme le club de foot Montréal. Tu sais, quand ils ont rentré, ils ont payé à peu près 40 millions. Toronto FC, 10 millions, c'est encore mieux. Ça, c'est le meilleur deal de l'histoire, à part celui de David Beckham avec l'Inter Miami. Mais aujourd'hui, selon Forbes, la franchise de Montréal tournerait autour de 175 à 200 millions.
Oui, j'ai 210 millions les dernières projections.
Okay. Si quelqu'un est prêt à payer ça, Jérémy,
ouais.
C'est toujours basé sur l'offre et la demande ou
sauf
la
rareté. Sauf que récemment, ce qu'on a vu, c'est que les franchises se sont vendues plus haut que l'estimation.
C'est vrai.
Fire de Chicago, je pense qu'il évaluait ça à 275, ça a été vendu à 330.
C'est vrai, Jérémy, mais il faut que tu trouves le vendeur, faut que tu l'acheteur plutôt, il faut que tu trouves le marché. Puis c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de grandes franchises de sport disponibles. Fait que c'est pour ça que les ligues majeures continuent dans le sport mondial de valoir de plus en plus cher parce qu'il n'y en a pas une éternité de clubs. Puis si tu en veux un à tout prix, tu vas le payer le prix. Ça, fait que c'est toujours comme ça que ça va se faire. C'est sûr que le gars qui va rentrer dans Sacramento à 300 millions, c'est sûr qu'il va retrouver son argent rapidement. Mais il faut que tu l'aies la liquidité pour acheter ce club-là. C'est ça que M. Burkle a pas.
Voilà. OK, ben merci beaucoup, Ray Lalonde. Très apprécié. On s'en reparle.
Salut, Jérémy.
Merci
bon week-end.
Bye-bye. Petite pause au retour de ceci. Je vous fais entendre quelques extraits sonores de celui qui, présentement, est en charge du camp d'entraînement du CF Montréal, Wilfried Nancy, qui pourrait devenir le prochain entraîneur-chef de l'équipe.